France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Qui aurait pu prévoir, comme qui dirait, qui aurait pu prévoir qu'un roman paru en 1985, passé relativement inaperçu les premiers mois, serait considéré 40 ans plus tard comme un brûlot menaçant la moralité américaine? Pas son autrice, mais ça ne l'a pas empêché à 80 ans passés de défendre son œuvre avec un humour dévastateur. Je vous parle évidemment de La Servante écarlate et de Margaret Atwood. L'écrivaine canadienne a toujours su sonder l'époque et les menaces réactionnaires. On connaît ses poèmes, ses romans. Il est temps maintenant de connaître sa vie. Elle publie cet automne ses mémoires, Le Livre des Vies, et elle est l'invitée des midis. Bonjour Margaret Atwood.
Bonjour.
Je suis très très heureuse de vous recevoir et soyez la bienvenue dans les Midis de Culture. Vous êtes donc de passage à Paris pour la sortie de vos mémoires. C'est un très très beau titre, Le Livre des Vies. On va en parler de ce titre tout à l'heure et ça paraît chez Robert Laffont. Mais dès le début du livre, vous expliquez que l'idée d'écrire vos mémoires ou une autobiographie, ça vous paraissait assez inutile, voire ennuyeux. Et maintenant que vous l'avez fait, comment vous qualifieriez cette expérience? Est-ce que c'était finalement difficile, agréable? Qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin?
Most of the time it was very agreeable.
L'essentiel du temps, c'était très agréable.
And lots of fun.
Je me suis beaucoup amusée.
Because a memoir is what you remember.
Parce que les mémoires, c'est ce dont on se souvient.
And what do you remember? You
et
remember
on se souvient
stupid things you did,
des choses idiotes qu'on a pu faire.
That perhaps were painful at the time,
on se souvient peut-être de choses
funny,
qui ont été douloureuses mais qui aujourd'hui vous font rire. On se souvient
did,
de choses idiotes que d'autres ont fait,
which are even funnier,
qui sont encore plus drôles.
You remember unexpected
on se souvient
surprises,
de bonnes surprises inattendues.
You remember, near-death experiences.
On se souvient des moments où on a frôlé la mort, des catastrophes, des désastres.
And of course you remember romantic tragedies,
et bien sûr, on se souvient des tragédies romantiques
which now seem very amusing.
Qui paraissent très amusants vu d'aujourd'hui.
Once you're past, I will encourage you. Once you're past the age
Je
of
vous
70,
y encourage. Quand on a passé 70 ans, c'est une bonne idée. Beaucoup de choses deviennent très comiques.
C'est le recul qui fait que vous trouvez les choses drôles aujourd'hui.
Oui, mais, not at the time.
Mais pas à l'époque.
Oui, c'est ça. En vous lisant, je vois la somme de souvenirs. Il faut voir le livre, hein. C'est un très beau livre, mais un gros livre. Et vous avez une mémoire incroyablement précise de choses qui vous sont arrivées dans la toute petite enfance, vous ne parliez même pas. Alors je me suis dit, il y a deux solutions, soit elle est hypermnésique, soit elle invente un peu. Je me suis dit, peut-être qu'elle invente un peu aussi, c'est bien possible.
How is it possible
that I have Est-ce que such c'est possible a large memory? D'avoir de tels souvenirs, une mémoire
This
aussi
book could
puissante
have been quite a lot longer.
Ce livre aurait pu être en réalité beaucoup plus long.
And it was longer.
Il l'était.
We edited it.
On a dû l'éditer.
To make it a bit,
on a fait
a
des
bit
coupes
short,
well, pour que ce soit un petit
shorter
peu plus court. Même beaucoup
so
plus court.
I just seem to have that kind of
Apparemment,
memory.
J'ai ce type de mémoire.
And I think a lot of people
et je crois que beaucoup de gens
their,
se souviennent
childhood
de
very
choses qui se sont passées pendant leur enfance. Ils gardent des souvenirs très vifs.
When you're a child,
parce que quand on est petit,
things, that's the first time it's ever happened to you.
Les choses vous arrivent pour la première fois.
So everything is magic.
Donc tout est magique.
Until the age of 5 or 6 years.
Jusqu'à l'âge de 5, 6 ans.
And this is why magicians
et c'est pour ça que les magiciens n'ont pas beaucoup de succès auprès des tout-petits.
There's no reason in their minds
et
why
ils n'ont aucune raison en tête qui justifierait que le lapin ne doive pas sortir du chapeau.
Ouais. Mais dans l'enfance aussi, c'est tout passe par les sens, tout passe par le corps aussi.
Yes, children are very emotional.
Oui, les enfants sont and, des êtres très émotionnels.
They remember very vividly.
Ils gardent des souvenirs très vifs.
Things that are, for instance, smells.
De choses comme les odeurs, les parfums.
Proust was correct.
Proust avait raison.
Colors are very
et les couleurs aussi, les couleurs leur apparaissent de façon très vive.
Alors si on parle par exemple d'odeur, vous avez parlé d'odeur en premier. L'odeur de votre enfance, ce serait quoi?
At that time, things were quite different.
Les choses étaient assez différentes.
And also, I was in the north of Canada.
J'étais dans le nord du Canada.
So there were a lot of smells of trees.
Donc il y avait beaucoup d'odeurs d'arbres.
In the outdoors, especially
on était au grand air, Il y avait des odeurs de conifères, des odeurs puissantes. Et puis dans les maisons, on avait un certain type d'encaustique pour les meubles, qui est vraiment marquant dans mes souvenirs. Les gens aussi ciraient les planchers. Et ça aussi, ça avait une odeur très particulière. Je crois que plus personne n'a ce type de sol aujourd'hui chez lui. Ça, ce sont des souvenirs très précis pour moi. Et puis aussi les champignons.
Les champignons que vous cueillez.
Oui. Toutes sortes de champignons différents. Certains ont des parfums très particuliers qui ne sont pas nécessairement toujours agréables.
On va revenir sur cette enfance dans les bois qui est très importante avec votre papa entomologiste. Mais juste pour revenir sur le principe de l'autobiographie et des mémoires. Très vite, vous précisez les choses, vous expliquez que l'autobiographie et les mémoires, c'est pas la même chose et encore moins que les mémoires littéraires, puisque ce sont des mémoires littéraires.
Qu'est-ce que c'est un literary memoir?
Qu'est-ce que c'est des mémoires littéraires?
So I said to my editors, I'm not just going to write. I wrote a book.
J'ai dit à mes éditeurs que je n'avais pas envie de raconter simplement de façon linéaire que j'avais écrit un livre puis un autre puis un autre. C'était pas intéressant. En général, les films qui parlent d'écrivains ne sont pas non plus très intéressants parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Tout est dans la tête. Tout est intérieur, contrairement à la danse, au théâtre. Donc j'ai commencé par refuser. Et ils ont insisté, ils ont dit non, ce qu'on voulait dire, c'est un mémoire au sens des mémoires, au sens littéraire. Alors je me suis demandé de quel style littéraire il parlait. Qu'est-ce que c'est un style littéraire? Il y a beaucoup de styles littéraires différents. Encore une fois, j'ai refusé. Et puis, j'ai décidé que les mémoires, c'était les souvenirs, ce qu'on garde en mémoire. Une biographie, c'est complètement différent. Une biographie, il y a des notes de bas de page, et beaucoup de faits, qu'on a peut-être d'ailleurs oublié soi-même.
On va écouter tout de suite un extrait de ces mémoires, Margaret Atwood, et on se retrouve juste après.
Elle écrit comme un homme, a dit de moi un collègue poète au début des années 1970, croyant me faire un compliment. « Vous avez oublié la ponctuation ?» lui ai-je rétorqué. Ce que vous vouliez dire, c'était « Elle écrit. » Comme un homme. Des réparties de cette farine se révélaient utiles en ce temps-là. « Si je m'embarquais dans ce projet de mémoire, me disais-je, j'aurais la possibilité d'examiner ces différentes images à la loupe, ainsi que d'autres, qui en général ne retiennent pas l'attention. » Suis-je fondamentalement la gamine aux anglaises et fan de claquettes de 1945? La roqueuse en jupe évasée et chaussures bicolores de 1955? La studieuse poétesse et nouvelliste en herbe de 1965? L'inquiétante romancière et fermière à mi-temps de 1975? Ou, version peut-être la plus connue, la mauvaise dactylo, commençant la Servante écarlate à Berlin et le terminant à Tuscaloosa en Alabama? Œuvre qui reçut un accueil mitigé à sa publication, en 1985. D'autres images de moi ont suivi. Au fil des ans, la faveur du public à mon égard a connu des hauts et des bas, pendant que je vieillissais, inévitablement. Mon éclat a pâli, s'est mis à vaciller, j'ai flamboyé au point de faire des étincelles, j'ai eu droit au halo de sainte, aux cornes sataniques. Qui n'aurait pas envie de scruter ces miroirs déformants? Peut-être suis-je un être liminal, partagé entre deux natures. Une gardienne de seuil qui change de forme à volonté ou presque. Une sorte de Baba Yaga, tantôt bienveillante, tantôt vengeresse. Habitant une cabane au milieu des bois, qui trotte sur des pattes de poule et circule à bord d'un mortier avec un pilon en guise de rame, tout en fredonnant une joyeuse mélodie aux accents néanmoins curieusement menaçants.
Voilà, c'était un extrait de votre livre des vies en français. Et merci d'ailleurs à Oriane Delacroix pour la lecture, Margaret Atwood. Alors ce texte, c'est un extrait de l'introduction en fait de vos mémoires. Vous le faites beaucoup là et vous le faites tout au long du livre. J'ai l'impression que vous prenez toujours le lecteur et la lectrice par la main. Vous lui expliquez ce que vous allez faire. Et je me suis demandé si c'était de la bienveillance. Est-ce que c'est une façon d'être bien sûr qu'on est vraiment avec vous, qu'on vous accompagne? Vous nous prenez avec vous?
Well, of course, writing
oui, is bien sûr, écrire.
Writing down.
Écrire, c'est tout simplement écrire sur la page, noter quelque chose. Parce qu'en réalité, l'écriture, c'est un acte d'oralité. Quand on parle toujours à quelqu'un, même quand on se parle à soi-même. Donc oui, quand on écrit, on parle. On parle au lecteur, à la lectrice, peu importe qui c'est. On ne sait jamais. C'est peut-être quelqu'un du futur, peut-être quelqu'un de très lointain. On ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas l'endroit où ils vivent, mais on leur parle.
Ce que vous nous dites là, c'est que vous êtes, dans l'extrait qu'on a entendu, Margaret Atwood, c'est que vous êtes multiple. Il y a celle qui écrit, il y a celle qui vit, et après il y a plusieurs Margaret Atwood en train d'écrire d'ailleurs. Alors, quelle est la Margaret Atwood que j'ai en face de moi, là, aujourd'hui, au lendemain de votre anniversaire?
An old one.
Une Margaret plus âgée.
But that has some advantages.
Mais ça a des avantages.
Because old people remember.
Parce que les personnes âgées se souviennent de ce que c'était d'être jeune. Alors que c'est souvent difficile pour les jeunes d'imaginer ce que ça fait d'être vieux. Nous, les personnes âgées, nous avons un panorama beaucoup plus large. Et c'est difficile de nous la faire à l'envers.
C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, de toutes ces Margaret que vous avez décrites dans les années 45, 65, 75, 85, est-ce que vous vous imaginiez, vous vous projetiez dans l'avenir, est-ce que vous imaginiez celle que vous seriez plus tard?
Well, when you're old, you know the plot.
Quand on vieillit, on connaît déjà l'histoire.
And of course, you know that that will finish.
Et on sait bien sûr qu'il y a une fin. Mais bien sûr, quand vous avez 22 ans, par exemple, vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Vous ne savez pas si vous aurez un jour un travail qui vous plaît. Quand vous avez des ambitions artistiques, vous ne savez pas si vous allez rencontrer le succès. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais là, moi, j'ai plutôt une bonne idée de ce qui va se passer. Donc, quand je parle aux gens qui ont mon âge, ils commencent toujours par me parler de leur maladie. Leur arthrose. Les souvenirs qui leur manquent, ils perdent la mémoire, est-ce qu'ils sont encore capables de monter les escaliers? J'ai de la chance, parce que jusqu'à présent, rien de trop grave ne m'est arrivé. Mais on appelle ça le récital des organes.
Ah. Ce qu'on a entendu au tout début de l'extrait, Margaret Atwood, c'est « elle écrit comme un homme ». Cette phrase-là, vous l'avez entendue bonne partie de votre carrière.
Well, I liked to tease,
eh bien, j'aimais bien à l'époque taquiner les écrivains, les hommes, parce que bien sûr, ils avaient cette tendance
à vous
traiter comme un chien qui est bien entraîné. Vous savez, Samuel Johnson, le docteur Samuel Johnson, l'écrivain anglais, a dit
« a woman preaching ».
Une femme qui prêche, c'est comme un chien qui marche sur une corde raide. Ce n'est pas très bien fait, mais c'est quand même épatant. C'est épatant qu'il y parvienne, déjà. Mais avec l'écriture, la littérature, c'était plus facile pour les femmes de s'engager dans cette carrière plutôt que d'autres carrières artistiques parce que c'est quelque chose qu'on pouvait faire en secret sous un nom de plume. Jane Austen, quand elle a commencé à publier des livres, n'a pas utilisé son propre nom. Mais elle a précisé que c'était écrit par une dame. On connaît aussi George Sand,
George Eliot,
et d'autres écrivaines qui ont utilisé des initiales plutôt que leur prénom pour que personne ne sache si c'était des hommes ou des femmes. Mais dans l'édition, il y avait cette expression la littérature pour filles, la littérature féminine, la chick lit, comme on dit aujourd'hui. Et on n'avait pas envie d'être vu comme une autrice de chick lit, mais parfois, de toute façon, c'était l'étiquette qu'on vous collait. Et les hommes qui disaient que vous écriviez comme un homme pensaient que c'était un compliment. Donc, pas comme ce petit caniche bien dressé.
Ouais. Il faut parler du ton de ces mémoires, et on l'entend dans cette interview, Margaret Atwood, c'est que vous avez publié des dizaines de recueils de poèmes, vous avez publié des romans, vous êtes une papesse de la littérature, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et pourtant, même dans ces mémoires-là, vous continuez à vous moquer de vous-même aussi. Est-ce que vous écrivez avec un sourire en coin ?
Yes, it's a...
Oui, c'est vrai, mais on peut prendre son travail au sérieux sans se prendre soi-même au sérieux.
Quand j'écris,
je suis très sérieuse sur ce que je fais. Je fais beaucoup de révisions, je fais très attention, je travaille avec les éditrices, avec les correcteurs. Mais c'est différent du fait de croire, d'adhérer à la propagande de ces éditrices, justement, ces éditeurs. Les écrivains canadiens, s'ils se prennent trop au sérieux, c'est quelque chose d'autre. Il y a une expression en anglais qui est, voilà, être, descendre un peu de ses grands chevaux, quelque part. C'est l'idée que on a peut-être un peu pris la grosse tête. On se prend pour la crème et le meilleur du monde. Nous, les Canadiens, c'est pas trop notre truc.
Mais quand même, vous aimez rire. Par exemple, qu'est-ce qui vous a fait rire récemment ? Moi, je me suis posé la question.
Well, you did.
Et bien vous ?
À mes dépens ou pas ? Vous écrivez, je vous cite, « L'une de mes théories sur les romanciers, c'est qu'ils n'en savent pas plus long que le commun des mortels sur la nature humaine. En réalité, ils en savent moins, et leur roman essaie de comprendre. Comment ai-je pu être aussi bête pour faire le sous-titre de bien des romans, des miens en tout cas ?» Alors là encore, on a le sentiment que vous rigolez pas mal, mais c'est parce que vous comprenez pas bien les choses que vous écrivez, vous aussi, c'est ça ?
Oh, that's my theory.
C'est ma théorie. Yes. Parce que si on savait tout de la nature humaine, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à essayer de la comprendre ? Le meilleur exemple, c'est sans doute Alias Grace, qui a été traduit par Captive. C'est un meurtre qui est arrivé dans l'histoire, dans la vraie vie, au milieu du 19e siècle au Canada. Et personne n'a jamais su si cette jeune fille de 16 ans qui s'appelait Grace était coupable ou pas. Et il y a 4 personnes dans cette maison, 2 sont découverts assassinés, 2 se sont enfuis, les 2 sont rattrapés, 1 a été pendu, et il ne reste plus qu'une personne, et elle n'a jamais dit ce qui s'était passé. Alors, bien sûr, elle est devenue comme un écran noir sur lequel on projette de la politique. Les conservateurs l'ont vue comme une manipulatrice diabolique, une véritable méchante. Les progressistes l'ont vue comme une victime. La jeune fille terrorisée par ce meurtre et ce meurtrier, et qui s'est enfui avec lui, ça n'a jamais été résolu. Ça, c'est une bonne raison d'écrire un livre, parce que si on avait la réponse, si on savait si elle a fait ou pas, si elle a commis ce meurtre, ce ne serait pas intéressant à écrire. J'aime écrire sur des choses que je ne sais pas. Et en écrivant, je découvre des choses auxquelles je n'avais peut-être pas pensé avant. C'est la même chose avec La Servante écarlate. C'est une sorte d'expérience. Et si, et si les États-Unis devenaient une dictature ? quel genre de dictature est-ce que ce serait ? On a maintenant un petit peu plus d'informations là-dessus.
Alors justement, puisque vous me parlez de la servante écarlate, comme on le dit en français et en Man's Tale, je vous propose qu'on écoute quelqu'un qui, comme vous, à un moment donné, a fait ce qu'on appelle de la fiction spéculative. Et vous allez nous en parler après, c'est Ray Bradbury.
J'écris des livres sur le fait de brûler des livres pour que les gens ne brûlent pas les livres. C'est aussi simple que cela. J'écris des histoires à propos de gens qui s'autodétruisent pour que les gens ne s'autodétruisent pas. J'écris des histoires à propos de gens qui sont blessés pour que les gens ne soient pas blessés. C'est toujours l'inverse. Chaque histoire négative que j'écris a un envers positif. Ce que vous en tirez devrait être ce positif qui ressort du négatif. Donc, je ne prédis pas ces futurs, j'en écris l'histoire pour que ces futurs n'existent pas.
Voilà, Ray Bradbury, la télévision américaine, c'était en 1969, l'auteur évidemment, entre autres, de Fahrenheit 451. Donc, il écrit sur des situations pour qu'elles ne se produisent pas, pour qu'elles n'arrivent pas. Margaret Atwood, vous croyez-vous en cette puissance du récit, en cette puissance du roman ?
Yes, he's right.
Oui, il a raison. J'ai lu beaucoup de ses romans adolescentes. Je l'ai connu adulte. Et il a énormément influencé le monde de la science-fiction. George Orwell écrivait aussi ce genre de livre. Et La Servante écarlate, c'est ce genre de livre aussi. Donc, si on veut que ces choses-là se produisent, en réalité, on ne dit rien, on n'en parle pas. Si vous pensez que quelqu'un risque de tomber dans un trou dans la rue et que vous avez envie que ça se produise, vous ne les prévenez pas.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu froid dans le dos, même plus que ça, complètement froid dans le dos quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Votre livre, La Servante écarlate, est interdit dans plusieurs États, il est censuré. Vous avez pris la parole là-dessus, toujours en plus avec votre humour. C'est ça qui m'étonne, c'est que face à ces situations-là, vous continuez à garder une forme d'optimisme.
Oui. Today we are seeing signs of optimism.
Et aujourd'hui, on voit des signes d'optimisme aux États-Unis. Au début de ce régime, je crois que les gens étaient pétrifiés au point de ne rien pouvoir faire. Mais ça a beaucoup changé. On voit des grandes manifestations, la manifestation No Kings. La Chambre des représentants tout entière, qui est à une exception, a voté pour... il n'y a eu qu'une seule abstention, ils ont voté pour la diffusion des dossiers Epstein contre l'avis du président, contre la volonté du président, qui s'est opposé à eux pendant des mois. Au début de son régime, ça aurait été impensable. Et maintenant, non seulement c'est envisageable, mais c'est réellement possible. Et en plus, c'est arrivé.
Alors là, on parle du roman, de la fiction spéculative et du roman en général, mais je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bien connu, vous avez commencé d'ailleurs par la poésie. Vous avez commencé par écrire des recueils de poésie. Et comme on parlait tout à l'heure de les différentes Margaret Atwood, celle qui écrit des poèmes, en quoi est-elle différente de celle qui écrit du roman ? Et est-ce que le poème a cette puissance dont on vient de parler du roman ?
Oui, il y a beaucoup de formes différentes. Quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas de programme de creative writing. On ne vous apprenait pas à écrire et on ne vous invitait pas à vous spécialiser. Il n'y avait pas de conseils professionnels. Et les gens de ma génération au Canada, qui étaient moins nombreux, écrivaient toutes sortes de styles et de genres. Et bien sûr, si vous êtes un écrivain professionnel et que vous vivez de votre plume, vous écrivez toutes sortes de choses. Parce que vous écrivez ce qui vous permet de manger. Et donc, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai aussi eu toutes sortes d'emplois, le genre d'emplois qu'ont les jeunes. simplement pour pouvoir écrire et vivre en même temps. Je n'imaginais pas m'enfuir à Paris. J'espérais pouvoir peut-être travailler comme serveuse, fumer des gitanes, même si en réalité je n'étais pas très douée pour fumer, boire de l'absinthe.
Oui,
peut-être que j'avais lu trop de littérature française du 19e siècle. Je vivrais sous les toits et je mourrais jeune de la tuberculose.
I'd also seen too much opera, perhaps.
J'avais sans doute vu trop d'opéra aussi. Un de mes profs m'a dit « Tu écrirais peut-être mieux et plus si tu allais faire un master. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai bien travaillé comme serveuse, mais à Toronto. Et c'était pas facile comme travail.
Avant de finir cette interview, voudrais revenir sur le titre. Je disais qu'il était très beau, le livre des vies. Alors c'est vos vies, bien sûr, Margaret Atwood, mais c'est aussi toute la place que vous faites à tous les gens que vous avez rencontrés, votre frère, votre sœur, votre compagnon, vos amis, les gens avec qui vous avez travaillé. C'est vraiment le livre des vies des autres aussi.
Et mes ennemis aussi.
Et de vos ennemis, oui.
Excusez-moi, my enemies too.
Oui, vos ennemis, bien sûr.
Mes ennemis aussi.
They too are part of the story.
Ils font aussi partie de l'histoire.
Yes.
Oui.
I enjoyed writing about these people.
Et je me suis aussi beaucoup amusée à écrire sur ces gens-là. Bien sûr, si on les met dans un livre, ça devient des personnages. Alors, on espère leur rendre justice. Et ne pas raconter trop de mensonges à leur sujet.
Je précise que dans le livre, vous dites aussi que vous avez une réputation de flingueuse de journaliste, mais que vous flinguez que si on vous flingue en premier. Bon, je ne vous ai pas flingué, donc ça s'est bien passé, cette interview.
No.
You said that.
No. Yes. I did have that reputation because
c'est vrai, j'ai eu cette réputation. Parce que quand j'ai commencé avec les journalistes, avoir affaire à des journalistes, ils étaient plutôt hostiles. Donc ils me disaient, vous n'êtes que cette petite jeune femme, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes capable d'écrire ? J'ai pas lu votre livre, je n'en ai pas l'intention. Est-ce que vous pouvez me le résumer en 25 mots ?
Eh ben, en tout cas, moi je l'ai lu votre livre et j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup Margaret Atwood d'être venue dans les Midis de Culture. Le livre des vies est publié chez Robert Laffont et je signale aussi la parution d'un carnet de Lerne qui vous est consacré. On se quitte sur une chanson, Burn the Witch, du regretté Olivier Libault. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Lise Ripoche et Jules Barbier. Merci à toute l'équipe, Aïssa Tundoy, Boris Pinot, Zora Vignier, Marceau Vassier, Margot Chaboche. À la réalisation, Laurence Malonda et Benjamin Hu, avec Grégory Wallon et Lucien Lefebvre à la technique.